même chose de la même manière. Alors c'est devant ces quelques considérations rapides que les deux versets de Philippiens se sont imposés à moi. Et j'aimerais maintenant vous en faire la lecture, ils vont être projetés. Ça devrait en tout cas, ça va venir. Petite inertie. C'est la rentrée pour le matériel aussi, donc il y a plus. Est-ce qu'on est sur la première diapo? Sinon, reclique dessus éventuellement avec la souris. Sinon, je te fais signe et tu passes manuellement. Ça ne veut pas marcher. En tout cas, le texte que nous allons lire, que ça s'affiche ou pas, c'est Philippiens chapitre 4. Je lis les versets 6 et 7. Philippiens 4, versets 6 et 7. Je lis dans la traduction de la Nouvelle Bible Seconde. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. La plupart d'entre nous connaissent bien ces versets. Ils nous ont souvent aidés à faire face à l'inquiétude dans notre vie. Mais nous devons sans doute tous le reconnaître, nous n'y arrivons pas toujours. Nous sommes facilement débordés par l'inquiétude et nous oublions vite cette exhortation de cette lettre aux Philippiens. Il est si facile de laisser notre cœur se charger d'inquiétude. Faire ça. Que dit notre texte? La première chose que j'aimerais souligner, c'est la réalité de l'inquiétude. C'est notre premier point. Comme je le disais en introduction, l'inquiétude est chevillée à la condition humaine, à notre condition humaine, à tel point qu'il serait utopique d'imaginer une vie humaine où l'inquiétude n'existe pas. Jamais, où l'inquiétude n'existe pas. Ne pas s'inquiéter est, selon moi, une impossibilité pour le cœur humain. D'ailleurs, nous notons que l'apôtre, par son exhortation, sous-entend son existence imparable et il propose une alternative. Il est donc important de ne pas tomber dans une hyper-spiritualisation de la vie chrétienne. Voilà, je crois qu'on va retrouver notre diaporama. Je fais juste une petite pause. Non. Fausse alerte. Voilà, je disais donc qu'il est important de ne pas tomber dans une hyper-spiritualisation de la vie chrétienne, comme cela peut exister, et d'imaginer que la présence, que la seule présence de l'inquiétude dans notre vie est une anomalie importante. Et j'aimerais dire ce matin, c'est en tout cas ce que j'aimerais poser comme base à cette réflexion, que ce n'est pas la présence de l'inquiétude qui est une anomalie, mais la présence de l'inquiétude qui dure. L'inquiétude qui dure, c'est-à-dire l'inquiétude que j'accepte dans mon cœur, avec laquelle je décide de cheminer, avec laquelle je décide de cohabiter. Et cela nous amène à notre deuxième point, la place de l'inquiétude dans la vie du chrétien, ou quelle place pour l'inquiétude dans la vie du chrétien. Paul ne nie pas l'existence de l'inquiétude, ni même que celle-ci puisse être présente dans la vie chrétienne. Cependant, par son exhortation, il invite le croyant à ne pas y demeurer, à faire rapidement quelque chose, à ne pas l'accepter sans rien faire, et il propose donc une alternative. Il la propose avec une exhortation, celle de notre texte, qui est à la forme impérative. « Ne vous inquiétez de rien », dit-il. Cet impératif peut être compris comme une exhortation appuyée ou alors comme un commandement. Quoi qu'il en soit, il est clair que pour l'apôtre, l'inquiétude n'a pas sa place dans la vie chrétienne. Elle doit être combattue, elle doit être refusée, elle doit être rejetée. Merci beaucoup. Pourquoi ? Clairement parce que telle n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Clairement parce que l'inquiétude est diamétralement opposée à une attitude de foi, une attitude de confiance en Dieu. Et c'est pour ces raisons que l'apôtre Paul est catégorique. Il ne laisse aucune place à l'inquiétude quand il dit « Ne vous inquiétez de rien. » De rien. Il aurait pu dire « Ne vous inquiétez pas trop. » Ou alors « Ne vous inquiétez pas pour telle chose et puis telle autre. » Mais il dit « Ne vous inquiétez de rien. » Et rien, ça veut dire rien. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation qui légitime l'inquiétude qui dure dans la vie du disciple de Jésus. Je dis bien qui dure, puisque nous l'avons déjà dit, il est impossible, en tout cas à mon sens, que l'inquiétude ne vienne jamais frapper à la porte de notre cœur. Pas de place pérenne donc pour l'inquiétude dans le cœur du chrétien. L'exhortation du verset 6 est claire à ce sujet. Mais ce serait une demande bien utopique de la part de l'apôtre Paul si une alternative ne nous était pas proposée. Et c'est ce que nous allons voir dans notre troisième point, la réponse de la prière. L'alternative à l'inquiétude dans notre passage, c'est la prière. L'idée derrière l'exhortation de l'apôtre, c'est que nous transformions notre inquiétude en prière. La prière nous est proposée comme l'attitude adéquate, comme la réponse adéquate à l'inquiétude qui vient s'inviter dans notre vie. Cette alternative, bien évidemment, suppose un choix délibéré. Le choix de la confiance en Dieu, même quand la vie nous malmène. Trop souvent, peut-être, sans doute, nous finissons par prier. Mais après avoir épuisé toutes nos ressources, c'est parfois ainsi que nous agissons, après avoir abattu toutes nos cartes, nous venons enfin à la prière. Comme notre dernier espoir, comme notre dernier recours. Mais la prière dans la pensée de l'apôtre, dans la pensée de ce texte, dans la volonté de Dieu, est tout sauf la dernière carte que nous devrions jouer. Ce que Dieu désire, c'est que la prière soit première dans notre vie. C'est que la prière devienne notre réponse logique, automatique, spontanée. À l'inquiétude. Pourquoi ? Parce que prier quand je suis inquiet, c'est dire à Dieu que je fais confiance, que je lui fais confiance malgré tout, malgré les circonstances contraires. Parce que prier quand je suis inquiet, c'est placer ma vie dans les mains de Dieu. Parce que prier quand je suis inquiet, c'est le moyen divinement choisi pour me donner la victoire sur l'inquiétude, pour me donner la paix de Dieu. Souvenons-nous ici que l'inquiétude est toujours stérile. Elle n'a jamais le pouvoir de changer les choses. Si elle change quelque chose, c'est qu'elle finit par m'éloigner de Dieu. Et si elle change quelque chose, c'est parfois aussi dans ma santé. Nous savons tous les effets que l'inquiétude répétée peut produire sur le corps humain. Pour le reste, pour la situation qui me préoccupe, l'inquiétude ne change jamais quoi que ce soit. J'aime même beaucoup la définition suivante de l'inquiétude, qui compare l'inquiétude à un cheval à bascule. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et voilà ce qu'elle dit. L'inquiétude est comme un cheval à bascule, ça vous donne quelque chose à faire, mais ça vous emmène nulle part. Jésus a dit cela avec d'autres mots dans l'Évangile. J'ai pris le texte de Luc, j'aurais pu prendre celui de Matthieu, où Jésus parle de l'inquiétude et où il parle du fait qu'elle est stérile, qu'elle ne nous apporte rien, en tout cas rien de bon. Il, c'est-à-dire Jésus, je lis Luc 12, versets 22 à 26, il dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'ont ni cellier ni grange, et Dieu les nourrit. Or, vous valez plus que les oiseaux, combien plus ? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie ? La réponse est personne, bien évidemment. Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Oui, notre inquiétude est stérile, mais la prière à laquelle Dieu nous invite est efficace, et c'est ce que nous allons voir maintenant. La prière est donc la réponse adéquate du chrétien face à l'inquiétude. Et la première chose que j'aimerais dire en développant la prière, ce qu'est cette prière, c'est j'aimerais parler de son champ d'opération qui est visé par l'exhortation de l'apôtre. Quel est-il ? Que dit Paul ? Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout. » Mais en tout. En tout, c'est le pendant dans le texte de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout. Deux mots extrêmement importants qui soulignent qu'il n'y a pas une seule situation dans nos vies qui ne soit pas concernée par ce que dit notre texte, par ce que Dieu dit ici. Il n'y a rien de ce que nous vivons, rien. Aucune difficulté, aucune épreuve, aucune inquiétude qui ne puisse être transformée en prière. En tout. Pour l'apôtre Paul, cela englobait beaucoup de choses, ça englobait tout d'ailleurs, et ça englobait certainement le fait qu'il était en prison au moment où il écrit cette lettre. Au moment où il la rédige, il est en prison et il attend son jugement qui débouchera peut-être sur une mise à mort. Il y fait allusion au début de cette lettre aux Philippiens. Et cette situation de l'apôtre donne vraiment du poids à cette exhortation. En tout, même quand je suis en prison en train d'attendre peut-être ma mise à mort, ne vous inquiétez de rien. Pour les Philippiens, en tout, englobait tout, bien évidemment, et ça englobait leurs difficultés du moment. Les oppositions, par exemple, qu'ils rencontraient dans l'Église et auxquelles Paul fait allusion dans cette lettre aux Philippiens, il parle d'adversaires, il a des mots très forts, il parle de chiens, de mauvais ouvriers, de partisans de la mutilation, c'est comme ça qu'il appelle les partisans de la circoncision. Pour les Philippiens, ces tensions-là dans l'Église rentraient bien évidemment dans le « en tout » de notre texte. Et pour nous, qu'est-ce que ce « en tout » pourrait englober, devrait englober ce matin ? Peut-être la rentrée des classes, la rentrée à l'université avec son stress et ses incertitudes, peut-être la maladie, que je subis, peut-être l'attente d'un diagnostic, une épreuve, quelle qu'elle soit, un souci au travail, des tensions familiales, des soucis financiers, la menace d'un licenciement, la perte d'un être cher. Nous pourrions rallonger cette liste. Finalement, il y a tant de choses, il y a toutes les choses qui composent notre vie, puisque en tout, c'est tout. Il y a tant de choses qui peuvent être source d'inquiétude dans nos vies. Et parfois même, ce n'est pas une chose à la fois, ça serait presque facile, hein, mais parfois même, c'est plusieurs choses au même temps et ça peut être vraiment difficile. Y a-t-il des circonstances dans ma vie actuellement qui font que mon cœur est dans l'inquiétude ce matin, qu'il est même rongé par l'inquiétude ? Quelles que soient ces circonstances, j'aimerais vous dire avec ce texte qu'elles entrent toutes, dans le champ d'opération de notre texte, dans le « en tout » de notre texte. « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, dit Paul, faites connaître à Dieu vos demandes par la prière. » Alors la prière, justement, que pouvons-nous en dire d'autre ? Toutes nos inquiétudes peuvent donc être transformées en prière. C'est le meilleur et le seul remède vraiment efficace face à l'inquiétude. Chers amis, quel est l'état de notre vie de prière ? Ça, c'est la question qu'on n'aime pas trop entendre, qu'on n'aime peut-être parfois pas trop poser parce qu'on s'inclut soi-même, bien évidemment. Et moi, je le dis humblement et avec une certaine honte, ma vie de prière n'est pas très souvent ce que j'aimerais qu'elle soit. Elle est même très souvent en deçà de ce que j'aimerais qu'elle soit dans ma vie. Il est si facile de ne pas prier. Il est si facile, quand on a beaucoup de choses à faire, de commencer nos journées tout de suite par l'action. Il y a tellement de choses. Et quand c'est comme ça, généralement, c'est jusqu'au bout de la journée et on a passé la journée et on n'a pas prié. Il est si facile de porter nos fardeaux nous-mêmes, nos inquiétudes nous-mêmes, plutôt que de les apporter à Dieu. Il est tellement facile d'oublier l'exhortation de notre texte. Mais le remède voulu par Dieu à appliquer sur nos cœurs inquiets, c'est la prière. Il n'y a rien d'autre. C'est la prière que Dieu nous propose. Et il n'y a pas de paix de Dieu, nous allons y arriver dans un instant, sans prière. Alors pourquoi continuons-nous à ne pas prier ? Pourquoi continuons-nous si souvent à porter nos inquiétudes par nous-mêmes ? En parlant de prière, l'apôtre Paul utilise dans notre texte plusieurs termes qui enrichissent le sens de son propos. Le premier terme qu'il utilise, c'est le mot prière, celui qui est traduit par prière. C'est un terme qui désigne la prière en général et qui traduit que l'on s'adresse à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière. Voilà, c'est le premier terme. Et puis ensuite, il parle de supplication. La supplication, c'est la prière qui va insister sur le besoin ou sur les besoins. C'est la prière qui reconnaît que j'ai besoin de Dieu, que j'ai besoin de son aide et que lui seul peut agir. Et c'est la prière qui attend expressément l'exaucement de Dieu. La pensée de l'apôtre est donc claire. Nous sommes invités à apporter notre inquiétude à Dieu dans une attitude qui reconnaît que seul Dieu peut agir. C'est donc une attitude de confiance, de dépendance à Dieu qui nous est demandée ici. J'ouvre ici une petite parenthèse concernant peut-être ce que certains d'entre vous pensent en ce moment et qu'on pourrait formuler ainsi. Pourquoi faire connaître à Dieu ce qu'il sait déjà ? Faites connaître à Dieu vos demandes. Ah bon, Dieu ne les connaît pas ? Mais Dieu sait tout, n'est-ce pas ? Alors pourquoi, après tout, faire connaître à Dieu nos demandes ? Nous le faisons parce qu'en agissant ainsi, nous disons à Dieu notre confiance et nous lui disons que nous avons besoin de lui. En d'autres mots, nous mettons notre foi en œuvre. Je referme cette petite parenthèse. Faire connaître à Dieu nos demandes, c'est simple comme démarche. C'est simple, mais ce n'est pas tout. Il y a encore une autre forme de prière dans notre texte. Il s'agit de l'action de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Faites connaître à Dieu vos demandes. Kézako, l'action de grâce. Ça fait, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on le dirait aujourd'hui, on trouverait peut-être une façon un peu plus moderne de dire ça. Mais l'action de grâce, c'est simplement la prière qui se décentre de soi pour regarder à Dieu, à sa personne et à ce qu'il a fait, à ses bienfaits, à ses bontés, à sa grâce. J'enlève les yeux de moi-même pour les tourner vers Dieu. Chers amis, même dans nos jours les plus difficiles et les plus mauvais, même quand notre horizon semble complètement bouché, nous avons toujours de bonnes raisons de regarder à Dieu. Nous avons toujours de bonnes raisons de louer Dieu, de le remercier, de nous réjouir en lui, de le remercier pour qui il est et pour ce qu'il a fait pour nous, en particulier par Jésus. Et en nous invitant à l'action de grâce avec la prière et la supplication, l'apôtre Paul nous invite à rechercher et à trouver dans notre vie de prière cet équilibre entre nos besoins, le regard sur nous-mêmes et ce regard sur Dieu. Un équilibre qui va nous éviter d'être submergés par l'inquiétude, et en tout cas que nous devons absolument rechercher quand nous sommes submergés par l'inquiétude. Nous décentrer de nous-mêmes pour regarder à Dieu. Et en effet, c'est en regardant à Dieu, en se remémorant ses bienfaits passés, que nous sommes gardés de bien des écueils. Je cite simplement ici l'égoïsme, par exemple. Force de regarder à mes besoins, je peux finir par ne penser qu'à moi, penser qu'il n'y a que moi qui ai des soucis et des problèmes. Le nombrilisme qui va avec, l'ingratitude, et j'en passe. Paul nous exhorte donc à la prière. Quand nous sommes dans l'inquiétude, une prière qui doit chercher et trouver son équilibre entre les besoins que j'apporte à Dieu et la reconnaissance à Dieu. Et c'est une prière à laquelle Dieu va répondre. C'est sans doute la partie la plus importante de notre verset, en tout cas pour nous et pour nos inquiétudes. C'est une prière à laquelle Dieu va répondre en donnant sa paix. C'est notre point suivant. Et la paix de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. Quelle différence entre d'un côté l'inquiétude et de l'autre la paix de Dieu. Aux cœurs accablés d'inquiétude et en réponse à la prière telle que nous venons d'en parler, Dieu promet sa paix. Pas n'importe quelle paix, la paix de Dieu, c'est-à-dire une paix dont l'origine est divine. C'est une paix qu'aucune contrefaçon humaine ne peut produire, ne peut générer. Aucun thérapeute, aucun pasteur, aucun médecin ne peut produire la paix de Dieu. Aucun effort humain ne peut la produire. Mais qu'est-ce que la paix de Dieu ? Soulignons ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas l'absence de problème. Ce n'est pas la fin systématique ou automatique des difficultés que je vis, ou le soulagement que je vais ressentir quand ça y est, enfin, c'est derrière moi. Rien dans notre texte ne dit que la source de l'inquiétude a disparu quand vient la paix de Dieu. En fait, la paix de Dieu, c'est premièrement la réponse de Dieu à notre prière, à la prière de son enfant qui se tourne vers lui avec confiance, et c'est ensuite cette sérénité, ce calme, ce contentement intérieur que Dieu donne à son enfant, même au milieu de la tempête. C'est la certitude, même au milieu de la tempête, d'être dans ses mains d'amour, indépendamment de nos circonstances. Cette paix, seul le Dieu de paix peut la donner. C'est la paix de Dieu. C'est la paix qui est rendue possible par l'œuvre de réconciliation de Jésus à la croix. Et c'est parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, avec le Dieu de paix, que nous pouvons, en tant que ses enfants, lui faire connaître nos besoins et recevoir de lui sa paix. Comme le dit le psalmiste au psaume 46 que nous connaissons bien, au début, Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument et font trembler les montagnes en se soulevant. Oui, Dieu pour ses enfants est un refuge et un appui pour leurs cœurs inquiets, auxquels ils désirent donner sa paix, mais pas n'importe quelle paix. C'est notre avant-dernier point. Pas n'importe quelle paix, parce que c'est une paix, dit Paul, qui surpasse toute pensée ou toute intelligence. Cela veut dire que cette paix, elle est surnaturelle, tout simplement. Son origine est divine, nous l'avons dit, ça suffit à expliquer qu'elle est surnaturelle. Et puis elle est surnaturelle parce qu'elle est aussi improbable, complètement improbable, dans les difficultés que nous traversons, quand nous sommes inquiets. En effet, cette paix de Dieu va exister là où, à vue humaine, il ne devrait y avoir qu'inquiétude, peur, angoisse, etc. La paix de Dieu dépasse l'entendement humain. Elle n'est pas logique, elle n'est pas rationnelle, mais elle est réelle. Et nous sommes nombreux ce matin, ici, à pouvoir en témoigner. Elle est réelle. Combien de fois Dieu nous a-t-il fait la grâce, cette grâce extraordinaire, d'être en paix au milieu du chaos de notre vie, des difficultés contraires, des épreuves que nous traversions? Combien de fois avons-nous expérimenté cela et pouvons-nous en témoigner? Comme le dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 3, verset 20, « Dieu peut faire par la puissance qui est à l'œuvre en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. » Et la paix de Dieu, cette paix qu'il donne à nos cœurs inquiets, en est un parfait exemple. Il nous reste un point à voir. C'est le dernier. C'est celui de la paix qui garde notre cœur et notre intelligence en Jésus-Christ. Le verbe « garder » qui est traduit ici par « garder », dans le texte grec, c'est un verbe qui vient du langage militaire. Et la paix nous est ainsi présentée dans notre texte comme un soldat qui monte la garde devant notre cœur. C'est une métaphore parlante. Mais monter la garde pour faire quoi? Sans doute pour empêcher l'inquiétude de revenir. Pour empêcher les assauts de l'ennemi de notre âme. Pour nous garder en paix et empêcher que les difficultés que nous traversons nous éloignent de Dieu. Il est temps de terminer. Chers amis, qu'allons-nous faire de l'exhortation de notre texte ce matin? Y a-t-il de l'inquiétude dans ma vie en ce matin, en ce moment? Si cela est le cas, pourquoi ne pas saisir la main que Dieu nous tend ce matin au travers de cette exhortation de l'apôtre Paul? pourquoi ne pas venir maintenant à Dieu par la prière pour recevoir sa paix? Je le dis avec assurance, je l'affirme, pour recevoir sa paix. Pas parce que Pierre l'a décrété, mais parce que la parole de Dieu le dit et que Dieu n'est pas menteur. Parfois, il faut le dire, nous venons à Dieu par la prière, nous sommes inquiets, nous nous déchargeons sur lui de toutes nos inquiétudes. L'apôtre Pierre le dit ainsi dans sa première lettre, « Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes », 1 Pierre 5, 7. Mais à peine avons-nous fini de nous décharger que nous reprenons le fardeau et nous recommençons notre journée. Parfois nous agissons ainsi et nous finissons par penser que Dieu n'a pas répondu ou que Dieu ne peut pas répondre ou que sais-je. Mais en réalité, il nous faut apprendre à déposer sans reprendre, à déposer et à déposer encore jusqu'à ce que je ne le reprenne plus, jusqu'à ce que je le laisse là dans les mains de Dieu, à déposer dans la confiance que les mains de Dieu sont les meilleures pour gérer cette situation qui m'inquiète. C'est vraiment une attitude de confiance. Notre passage dans cette lettre aux Philippiens a son pendant dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, et je termine avec la citation de ce verset qui dit ceci, Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il met sa confiance en toi. » Mettez votre confiance dans le Seigneur pour toujours, car c'est dans le Seigneur qu'est le rocher de tous les temps. Amen. Je vous invite à prendre quelques instants dans la prière, quelques instants de prière pour répondre dans nos cœurs à ce que nous venons d'entendre. De chanter cette paix de Dieu dont nous venons de parler, une paix qui est décrite dans le cantique que nous allons chanter comme un fleuve immense auquel aucune inquiétude ne peut résister. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Après le chant, nous allons chanter la strophe 1, 3 et 4. Nous allons faire mémoire de l'œuvre du Christ accomplie à la croix. La dernière fois que nous l'avons fait ensemble dans ces locaux remonte au 8 mars dernier. Ça fait très très longtemps que nous n'avons pas partagé le pain et le vin. C'est une joie de pouvoir le faire à nouveau ce matin. Et j'invite ensuite toutes celles et ceux qui ont mis leur foi en Jésus pour leur salut à partager le pain et le vin qui seront distribués. Je donnerai quelques précisions tout à l'heure. Levons-nous pour chanter.